France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Le choc et les questions au lendemain de l'attaque terroriste meurtrière en Australie qui a pris la communauté juive pour cible. On tâchera de pointer les manquements éventuels du gouvernement et de comprendre ce qui a pu mener ainsi à une telle atrocité. On se rendra à Moscou au moment même où se déroule de nouveau pour parler de paix à Berlin entre le président ukrainien et les émissaires américains. Suivre également un rapport accablant sur la liberté d'expression dans le monde. On reviendra sur la disparition hier du réalisateur américain Rob Reiner. Et puis l'actualité en français, notamment la nouvelle alliance entre le Modem et Rachida Dati pour les prochaines élections municipales à Paris. Enfin, à l'occasion des dernières tractations en vue de doter le pays d'un budget et d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, on recevra le président délégué du groupe RN à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy. Ce matin, les drapeaux étaient en berne partout en Australie, tandis que des messages affluaient du monde entier en soutien après l'attentat mené hier sur la plus célèbre plage du pays, à l'occasion de la fête juive des Lumières. Le bilan fait état de 16 morts, dont l'un des tireurs présumés, bilan qui aurait sans doute pu être beaucoup plus lourd encore sans l'intervention héroïque d'un homme qui a réussi à mettre en joue l'un des assaillants. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, les deux terroristes, un père et un fils, avaient prêté allégeance au groupe État islamique. C'est évidemment un premier élément d'éclaircissement. Ensuite, cette attaque pose la question d'une forme d'antisémitisme latent, en particulier après deux années de manifestations dans les rues d'Australie contre la guerre de représailles menée par Israël à Gaza. Enfin, dans un pays réputé comme l'un des plus sûrs, où les fusillades de masse sont rarissimes, cette attaque est venue rapidement soulever la question de savoir si la législation sur les armes à feu, déjà l'une des plus strictes au monde, est toujours bien adaptée. Les précisions de Marwaman.
Face au choc, le Premier ministre australien Anthony Albanese a pris la parole et a annoncé que le gouvernement était prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut un durcissement de la législation sur les armes à feu. Le nouveau programme visera à limiter le nombre d'armes pouvant être utilisées ou autorisées par des particuliers, ainsi qu'un réexamen des permis au bout d'un certain temps. Ces permis de port d'armes ne devraient pas être permanents, car les gens peuvent se radicaliser avec le temps. Et il faut bien sûr mettre en place des contrôles pour s'assurer que ces mécanismes fonctionnent correctement. Si les fusillades de masse restent rares en Australie, le nombre d'armes détenues légalement dépasse aujourd'hui les 4 millions. Associations et responsables politiques appellent donc à réévaluer un système hérité des réformes historiques mises en place après le massacre de Port Arthur en 1996, une tuerie qui a eu lieu en Tasmanie et qui avait causé la mort de 35 personnes abattues par un seul tireur. Un massacre resté dans toutes les mémoires, qui avait bouleversé l'opinion publique et déclenché des changements majeurs dans la législation sur les armes à feu en moins de deux semaines. L'Australie avait par exemple interdit les armes semi-automatiques.
Pour la première fois au Chili, un pinochetiste arrive au palais présidentiel par la voie des urnes.
Son nom, José Antonio Kast, avec plus de 58% des suffrages, le candidat ultra-conservateur a remporté hier une victoire sans appel face à son adversaire de gauche. Mais surtout, ce triomphe d'un admirateur avéré d'Augusto Pinochet vient non seulement raviver les fantômes de la dictature, mais aussi confirmer le virage à droite et même à l'extrême droite d'une bonne partie désormais de l'Amérique du Sud.
L'Ukraine, bien décidée à montrer au monde entier qu'elle n'est pas disposée à se rendre.
Cette nuit, son armée a lancé pas moins de 130 drones sur la Russie, et la semaine dernière déjà, elle avait annoncé avoir repris à l'envahisseur le contrôle de la ville de Kupiansk. Autant de faits d'armes que Kiev compte bien exploiter dans ses pourparlers. Volodymyr Zelensky est arrivé hier à Berlin pour y rencontrer les émissaires américains. Kiev tente de convaincre Washington qu'un cessez-le-feu doit intervenir sans concession territoriale préalable à Moscou. Une rencontre au sommet doit également réunir ce soir le chancelier allemand et de nombreux dirigeants européens. Enfin, l'UE, assez largement marginalisé, doit se prononcer cette semaine sur le sort des 210 milliards d'euros d'actifs appartenant à la Russie. Reste évidemment à savoir si toute cette activité diplomatique est de nature à changer quoi que ce soit. Or, si l'on en croit les dernières déclarations venues directement du Kremlin, il semble qu'il y ait assez peu de raisons de se montrer optimiste. Une correspondance depuis Moscou signée Sylvain Tronchet.
Officiellement, le Kremlin attend que Washington lui fasse part du résultat des discussions en cours à Berlin. C'est ce qu'a dit ce matin le porte-parole de Vladimir Poutine, Dimitri Peskov. Mais dans les faits, Moscou n'attend rien de ces négociations, rien de bon, en tout cas dès hier soir. Alors même que les discussions étaient encore en cours, le conseiller diplomatique Yuri Ushakov apparaissait à la télévision pour expliquer que la Russie n'accepterait aucun aménagement. S'il y a des amendements au plan que nous avons convenu avec les Américains, nous nous y opposerons, a-t-il dit en substance, posant que, par nature, la contribution des Ukrainiens et des Européens a peu de chances d'être constructive aux yeux de Moscou. Yuri Ushakov a même précisé que l'hypothèse d'une zone démilitarisée dans la région de Donetsk, par exemple, est exclue pour Moscou, qui veut que sa souveraineté sur le Donbass soit reconnue dans sa totalité, y compris dans le secteur toujours tenu par l'armée ukrainienne. Bref, rien ne change et dans ces conditions, on voit difficilement comment les Américains pourraient revenir vers Moscou avec un plan acceptable pour le Kremlin.
Les superlatifs à son égard sont d'abord et surtout emblématiques de l'effrayante érosion des libertés politiques à Hong Kong. Jimmy Lai, le dissident le plus célèbre en même temps que le plus vieux prisonnier politique de la région prétendument semi-autonome, le premier par ailleurs à avoir été accusé de collusion avec des forces étrangères en vertu de la loi imposée par la Chine, a été jugé coupable ce matin dans son procès pour atteinte à la sécurité nationale. À 78 ans, celui qui avait déjà été réduit au silence depuis près de 5 ans est resté impassible à l'énoncé du verdict. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sa peine sera connue à une date ultérieure. Il pourra d'ailleurs encore faire appel, mais d'ores et déjà, ce verdict prononcé à l'encontre de l'ancien magnat de la presse, dont le journal incarnait la liberté, marque symboliquement du moins la disparition organisée du mouvement pro-démocratie.
Et hasard de l'actualité, c'est dans ce contexte qu'un rapport de l'UNESCO publié ce matin nous apprend que l'indice de liberté d'expression dans le monde a reculé de 10% depuis 2012.
Oui, une telle baisse ne s'est produite que 3 fois dans l'histoire moderne. Tout d'abord pendant la Première Guerre mondiale, puis juste avant la Seconde, et enfin au plus fort de la guerre froide, c'est-à-dire à la fin des années 70. Les précisions de Fiona Mogadam.
Pour l'expliquer, l'UNESCO observe que l'autocensure des journalistes a fortement augmenté, plus 63% depuis 2012, avec nombre de médias qui évitent d'évoquer la corruption, les droits humains ou l'environnement par peur de représailles. Il y a aussi les restrictions imposées aux médias à travers le monde, avec un contrôle et une collecte des données des journalistes, mais aussi l'instrumentalisation des procédures judiciaires envers eux. Elles ont augmenté de 48% à travers le monde. Régulièrement, les organisations représentatives de journalistes dénoncent, par exemple en France, des procédures bâillons visant à faire taire les journalistes enquêtant sur certains sujets. Les chiffres des violences commises envers les professionnels sont aussi alarmants. Depuis 2022, 310 journalistes ont été tués. Dans la majorité des cas, ces crimes restent impunis. En Amérique latine et dans les Caraïbes s'ajoute l'exil de journalistes. Ils sont plusieurs centaines à fuir leur pays en raison de menaces, harcèlement ou persécutions. Les femmes journalistes et celles et ceux qui travaillent sur les questions environnementales sont particulièrement visés. Les 3/4 des femmes journalistes ont déjà subi une attaque en ligne. Les violences envers les journalistes environnementaux ont fortement augmenté ces dernières années, tout comme les propos climato-sceptiques, plus 40% sur les principales plateformes depuis 2021. L'UNESCO rappelle que le journalisme libre, indépendant, pluraliste et professionnel est la pierre angulaire de la vie démocratique, alors qu'aujourd'hui, près de 3/4 de la population mondiale vit dans un régime non démocratique, le plus haut niveau depuis 1978.
Leurs 2 corps ont été retrouvés hier dans leur maison de Los Angeles, apparemment victimes de blessures par arme blanche.
Le réalisateur américain Rob Reiner et son épouse, même si rien ne filtre jusqu'à présent en termes de mobile ni de suspect, la police a bel et bien confirmé la thèse du meurtre. Louise Forbin, bonjour.
Bonjour.
Alors, à 78 ans, Rob Reiner, réalisateur, scénariste, producteur, était connu pour être l'auteur de très nombreux films cultes. On citera notamment Quand Harry rencontre Sally, Stand By Me ou bien encore Misery. Mais c'est d'abord en tant qu'acteur, Louise, qu'il avait commencé sa carrière.
Oui, c'est dans la série All in the Family que Rob Reiner fait sa première apparition à l'écran dans les années 70. D'abord acteur, il passe ensuite derrière la caméra. Son premier film, Spinal Tap, sort en 1984. Il s'agit d'un documentaire parodique sur un groupe de rock imaginaire. Mais le réalisateur est surtout l'auteur de nombreux films cultes, notamment Quand Harry rencontre Sally avec Billy Crystal et Meg Ryan. La célèbre scène du restaurant où Meg Ryan simule un orgasme avait d'ailleurs marqué les esprits.
Yes! 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 Oh God.
Rob Reiner a aussi adapté avec succès deux œuvres de Stephen King, avec tout d'abord le film Stand By Me, qui tient son titre de la chanson de Ben E. King, réédité à l'occasion de ce long métrage sorti en 1986. So darling. Ce fils d'un célèbre scénariste et réalisateur a par la suite adopté le thriller Misery, multi-récompensé notamment par un Oscar pour Kathy Bates dans le rôle principal. Militant politique engagé, il était notamment un défenseur des droits des LGBTQ+. Retrouvant parfois son rôle de comédien, il était apparu récemment dans 4 épisodes de la série The Bear. Au total, Rob Reiner a réalisé 23 longs métrages.
Merci Louise Forbin.
Nouvelle épreuve pour le musée le plus fréquenté du monde, décidément dans la tourmente.
Oui, le Louvre a été contraint de fermer ses portes aujourd'hui en raison d'une grève de ses personnels lancée par les syndicats, votée à l'unanimité ce matin contre des conditions de travail toujours plus dégradées, un conflit social doublé d'une réorganisation à marche forcée après la mise à nu de tous ces dysfonctionnements depuis le cambriolage ubuesque des joyaux de la couronne toujours introuvables.
On reste dans la capitale où le MoDem a fait le choix de Rachida Dati.
Pour les prochaines élections municipales prévues en mars, le mouvement de François Bayrou a finalement décidé en effet de se ranger derrière la candidate Les Républicains. Républicain jugé seul capable de rendre l'alternance possible. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Les centristes tournent ainsi le dos à l'autre candidat de droite, soutenu lui par Renaissance, Pierre-Yves Bournazel, et probablement qu'à 3 mois de l'échéance, eh bien les sondages, Rosalie, ne sont pas pour rien dans ce choix d'alliance.
Au MoDem, on l'assure, ce choix repose avant tout sur le fond, puisque Rachida Dati s'est engagée à reprendre plusieurs priorités des centristes. Maud Gatel est la chef de file du MoDem parisien.
À partir du moment où on converge sur la dimension programmatique et qu'on considère que pour cette alternance qu'on appelle de nos voeux à Paris, il faut se rassembler, il est apparu que Rachida Dati était la plus à même d'incarner cette alternance à Paris.
La secrétaire générale du MoDem nie toute tension en interne, malgré notamment la perspective de ce procès pour corruption qui attend Rachida Dati 6 mois après les municipales, malgré aussi l'autre option sur la table, l'alliance avec le candidat Horizon soutenu par les macronistes, Pierre-Yves Bournazel, aujourd'hui moins bien placé que sa rivale, le politologue Bruno Cotterès.
Les derniers sondages montrent que si la gauche s'unit davantage, les socialistes avec les écologistes notamment, elle peut passer en tête au premier tour. Et c'est vrai que pour les autres formations politiques, peut-être que si Rachida Dati n'est pas leur candidate préférée, il y a un principe de réalité à un moment donné, que de se réunir derrière le candidat ou la candidate la mieux placée. C'est incontestablement ce qui s'est passé avec le MoDem et Rachida Dati.
Avec une partie des voix de la droite et du centre captée par Pierre-Yves Bournazel, le poids du MoDem à Paris ne permet pas pour l'instant, en tout cas, de tout faire basculer dès le premier tour pour Rachida Dati. Elle reste dans le dernier sondage Ipsos, 5 points derrière une union du PS et des écologistes.
Merci Rosalie Lafarge.
Paille, lisier et pneus usagés.
Oui, c'est sous le feu des barrages et surtout des critiques d'une partie du monde agricole que la ministre Annie Genevard est attendue aujourd'hui à Toulouse pour défendre sa gestion de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, cette maladie non transmissible à l'homme qui touche certains bovins. En l'occurrence, la stratégie du gouvernement implique une vaste campagne de vaccination, mais aussi l'abattage de toutes les bêtes des foyers affectés, d'où la colère montante d'une partie des éleveurs. Bref, une crise sanitaire concentrée jusqu'à présent dans le Grand Sud-Ouest, mais qui menace à présent de muter en crise politique.
Dans le même temps, c'est une semaine décisive qui s'ouvre pour le Premier ministre.
Sébastien Lecornu est toujours convaincu de pouvoir doter le pays d'un budget avant le 31 décembre, malgré les très grandes incertitudes qui pèsent encore sur l'issue du budget de l'État, notamment. Celui-ci sera justement soumis au vote du Sénat aujourd'hui. La Chambre haute, dominée par une alliance entre la droite et les centristes, devrait l'adopter très largement, ce qui signifie en revanche que le plus difficile en réalité commencera pour le gouvernement. Et pourquoi? Parce qu'une commission mixte paritaire devra ensuite tenter de trouver un accord sur le texte, une opération a priori périlleuse au vu des divergences qui subsistent entre les deux chambres. On se souvient que ce projet de loi de finances avait fait l'objet d'un rejet massif en première lecture à l'Assemblée, puis parallèlement à cela, le budget de la Sécu a lui certes été adopté en première lecture à l'Assemblée la semaine dernière, une courte majorité, sauf qu'un ultime vote des députés est prévu demain après-midi pour évoquer, entre autres choses, les multiples scénarios donc auxquels la France pourrait devoir faire face d'ici la fin de l'année. Invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme et président délégué du groupe à l'Assemblée. Bonjour monsieur.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thomas.
Le micro, c'est mieux, voilà.
Bonjour Thomas. Jean-Philippe Tanguy, vous vous apprêtez avec l'ensemble du groupe Rassemblement National à voter contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale demain à l'occasion de l'ultime examen du texte. Il comprend pourtant un certain nombre de mesures que vous réclamiez. La suspension de la réforme des retraites, l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, l'abandon de l'augmentation des franchises médicales. Pour quelles raisons votre groupe vote-t-il contre ?
Alors déjà, l'indexation des pensions et des aides sociales, c'est la loi, donc c'est pas un gain, c'est juste qu'on a empêché qu'ils contreviennent à la loi et qu'ils atteignent encore plus au pouvoir d'achat que dans la réalité actuelle. Et la suspension de la réforme des retraites, écoutez, certes on l'a soutenue, mais ça ne mérite pas 24 milliards de déficit de la sécurité sociale, parce qu'en fait on voit bien que cette petite mesure cherche en fait à cacher l'incurie de ce gouvernement à maîtriser les finances publiques. 24 milliards de déficit de la sécurité sociale sans crise économique, on n'a jamais vu ça sous la Ve République. Il est arrivé que la sécurité sociale ait des déficits importants, mais c'était pendant une année de crise économique ou au lendemain d'une crise économique, d'ailleurs beaucoup plus importante que ce qu'on a connu, type crise des subprimes.
Mais s'il n'y a pas de budget d'ici la fin de l'année, vous parlez de 24 milliards d'euros de déficit, on passe à 30 milliards. Ça aggrave encore le processus.
Non mais ça c'est pipeau, non mais ça c'est complètement pipeau, c'est une note du Premier ministre avec ce qu'on appelle les tendanciels. Ce sont des scénarios complètement infondés. Et en fait, le 30 milliards, c'est le résultat, si je puis dire, de la politique économique de la Macronie depuis 8 ans. On le voit avec la désindustrialisation ou la crise agricole, parce que derrière la crise agricole, il y a la perte de souveraineté alimentaire de notre pays et la perte de l'excédent agricole. Si les caisses de la sécurité sociale sont vides, c'est parce que l'économie et l'emploi sont en grande souffrance et le niveau des salaires, puisqu'en fait, le solde de la sécurité sociale, il dépend directement de l'état de l'économie.
On a un peu de mal à voir la cohérence du Rassemblement national également sur le budget. D'un côté, vous dites qu'il ne faut pas pénaliser l'économie du pays. De l'autre côté, vous votez des mesures qui augmentent les impôts des entreprises, ce qui vous est d'ailleurs reproché par les entrepreneurs. Vous préconisez une forme de protectionnisme vis-à-vis de l'étranger, mais vous votez contre la mise en place d'une taxe sur les petits colis qui vise à lutter contre l'invasion des marchés français et européens par les produits chinois. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de contradictions quand même entre le discours que vous portez et les actes ?
Non, pas du tout. C'est juste que nous sommes en contradiction avec les mensonges que répète le gouvernement. Nous n'avons pas voté d'augmentation des impôts sur les entreprises. Les mesures que l'on proposait, c'est les impôts de 45 milliards d'euros. D'ailleurs, la gauche, un certain nombre de gens nous le reprochent. Donc, si vous voulez, on est à la fois accusé par la gauche de vouloir baisser les impôts sur les ménages, 20 milliards, les impôts sur les petites et moyennes entreprises, 25 milliards, et on est accusé par la Macronie du contraire. Donc, évidemment, tout ça n'a ni queue ni tête. C'est juste que nous avons voté une vieille mesure altermondialiste et souverainiste de défense contre l'optimisation fiscale. Parce qu'il y a 26 milliards d'euros, ce qui était d'ailleurs confirmé par un rapport de l'OCDE dont personne n'a parlé, il y a 2 semaines de suroptimisation des schémas d'organisation de l'impôt sur société d'un certain nombre de multinationales, ce qui nous coûte très cher. Ça a été dénoncé depuis des années, ils n'ont rien fait. Il y a une vieille mesure des souverainistes qui avait été proposée à l'époque par Alain Bocquet, député communiste, et Nicolas Dupont-Aignan, qui était mon mentor gaulliste, pour contrevenir à cela. Voilà. Donc en fait, on est accusé d'augmenter les impôts quand on veut lutter contre la fraude fiscale. Et je dois dire que je suis assez impatient d'entrer en campagne électorale, parce que tous ceux qui ont menti sur ce sujet devront répondre devant les électeurs, et quand ils viendront pleurnicher sur la fraude fiscale internationale, on verra comment ils se défendent. Et sur ce qui est des petits colis, écoutez monsieur, c'est une mesure grotesque qui ne luttera absolument pas contre la submersion des produits venant de Chine, mais qui consiste juste à remplir les caisses de l'État sur le dos des consommateurs. Ça fait partie d'un certain nombre de mesures punitives contre les classes moyennes et populaires. On essaie de faire croire qu'on fait de la politique alors qu'on fait juste du matraquage fiscal. Donc si vous croyez qu'on va lutter contre la submersion chinoise avec une taxe de 2 euros sur les petits colis, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer.
Est-ce que vous considérez que ce n'est pas si grave s'il n'y a ni budget de la sécurité sociale, ni budget de l'État à la fin de l'année du coup ?
C'est moins grave que des mauvais budgets, parce que avaliser 24 milliards de déficit sur la sécurité sociale avec des privations de droits, parce que aussi ce qu'on ne dit pas, effectivement il y a la suspension de la réforme des retraites, mais en fait toutes les mesures d'économie, c'est juste des mesures pour taper sur les malades, notamment une taxe de 1,1 milliard sur les mutuelles, qui sera, et on le sait déjà, répercuter sur les assurés, en particulier les familles et les personnes, les retraités et les malades, avec des tarifs de mutuelles qui vont augmenter de 8%. Et sur le budget général, c'est encore pire, puisqu'en fait, on va atteindre plus de 5% du déficit dans la mouture magouillée avec les socialistes. Donc, on est dans une perte totale des contrôles des finances publiques. La dette, l'année dernière, a augmenté de 5 points. La loi de fin de gestion a confirmé qu'ils avaient augmenté les impôts l'année dernière de 24 milliards, avec des dépenses en volume qui augmentent de 12 milliards. Donc, en fait, toutes ces espèces de manœuvres politiques qui font beaucoup de bruit sur le débat public et le débat parisien, cherche en fait à cacher un système politique à bout de souffle qui ne sait plus gérer les finances
c'est
publiques.
C'est bien compris. Merci.
Une situation hors contrôle des finances publiques.
Merci Jean-Philippe Tanguy, député RN donc de la Somme, président délégué du groupe à l'Assemblée, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Stéphane Robert ainsi qu'à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec de belles éclaircies du sud-ouest au nord-est. Partout ailleurs, en revanche, la couverture nuageuse reste dense avec même de fortes pluies autour de la Méditerranée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Antoine Bouchet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.